RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais.
Tous ceux qui ont rencontré Christiane Singer, cette écrivaine française décédée en 2007, ont été frappés par le magnétisme de sa présence, sa voix, si caractéristique aux intonations méridionales, et surtout par la profondeur et la beauté de ses paroles et de ses écrits. Mais qui était vraiment Christiane Singer, née à Marseille en 1943 et morte à Vienne, en Autriche, en avril 2007, d'un cancer foudroyant à 64 ans. Audrey Fella, bonjour.
Bonjour Thierry.
Vous êtes historienne et vous travaillez depuis plusieurs années sur les femmes mystiques et les femmes en quête d'absolu. Et vous venez de publier chez Albin Michel une biographie de Christiane Singer intitulée « Christiane Singer, une vie sur le fil de la merveille ». Alors, des femmes en quête d'absolu, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement chez Christiane Singer au point de lui consacrer un livre ?
Eh bien, ce qui m'a beaucoup touchée chez Christiane Singer, que j'ai lu très jeune, c'est son écriture, en fait. J'ai découvert avec elle une écriture assez particulière qui mêlait des éléments de sa vie, à la fois son imagination, dans une écriture assez dépouillée que je trouvais très vivante. À l'époque, j'avais 20 ans, je ne me rendais pas bien compte, j'avais plutôt une sensation, je n'arrivais pas à intellectualiser ce que c'était que ce plus vivante, justement. J'ai compris plus tard que c'était la vie qu'elle portait en elle, qu'elle avait touchée et qu'elle, finalement, elle arrivait à transmettre à travers son écriture et sa parole.
Elle est née en 1943, je le disais, dans un contexte particulier, celui de la guerre, avec un père qui était juif. Est-ce que cela a énormément compté dans sa vie? Elle a marqué profondément?
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, son père et la famille du côté de son père étaient une famille juive, athée, non pratiquante. Malgré tout, elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, vous l'avez rappelé, en 1943, et bien évidemment qu'elle a été marquée par le destin des Juifs.
Tout en étant catholique elle-même.
Tout en étant catholique elle-même de par sa maman. Donc son père, à l'âge de 13 ans, lui a raconté le destin de sa propre famille. Donc du côté de son père, ses parents avaient pu fuir l'Autriche, ils avaient néanmoins été chassés avec leurs enfants, ils avaient dû quitter leur maison, leur travail, ce qui a laissé chez Christiane une trace importante. Et il faut savoir que le reste de la famille a été déporté. Et elle s'était juré de rester dans ce devoir de mémoire et de revenir un jour sur les lieux du crime. Ce qu'elle fera plus tard, puisqu'elle va vivre en Autriche, elle va s'y marier, avoir ses enfants et vivre là-bas.
Alors on va en reparler dans un instant. Mais l'écriture, écrivez-vous, était comme une évidence pour elle.
Oui, elle, c'est une grande amoureuse des mots, de la littérature, déjà depuis son plus jeune âge.
De la langue française aussi.
De la langue française, tout à fait. Elle apprend des mots, elle les mâche, elle les remâche, elle s'entoure dans le rideau, elle raconte ça avec beaucoup de charme et de séduction aussi. Hein. C'est une
grande
séductrice. Ouais. Elle disait elle-même que c'était, entre guillemets, une allumeuse. Hein. Alors, une allumeuse de cette grande vie, bien évidemment. Il faut resituer les choses.
Oui, mais avec les deux sens du terme.
Absolument.
Elle donnait le feu. Elle pouvait aussi allumer les autres, éclairer les autres.
Tout à fait, c'est ça. Raviver en eux cette petite flamme. Donc, en effet, c'est une amoureuse de la littérature depuis très jeune et sa vocation va mûrir, mais déjà jeune, elle avait déjà envie d'écrire. Elle écrivait des petites histoires, des petits poèmes qui étaient publiés.
Donc, ça mais elle voulait être comédienne aussi. Hein. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer. Elle avait un côté un peu théâtral quand même, quand elle parlait, quand
absolument,
elle se comportait.
Absolument, qui ne plaît pas à tout le monde, qui fait à la fois son charme et aussi qui peut rebuter. Christiane, il faut le dire, était une très belle femme. Et jeune, elle avait un petit air d'Audrey Hepburn, ce qui l'a un petit peu poussée. Elle avait aussi ce désir de plaire, d'être mise en scène. Elle aimait se montrer, parler, se mettre en valeur. Et à un moment donné, en effet, elle a eu envie de devenir comédienne. Mais il fallait qu'elle aille à Paris, quitter ses parents. Elle était très proche de ses parents. Finalement, elle s'est dirigée vers l'architecture pour faire plaisir à son père, puis ensuite vers la littérature qui est finalement sa vraie vocation.
Alors, c'est vrai, Audrey Fella, qu'on a connu d'abord Christiane Singer au début par la littérature, pas du tout par ses livres qui vont la rendre célèbre par la suite sur une dimension beaucoup plus spirituelle. Au début, c'est la littérature.
Absolument. Au départ, c'est la littérature avec un style très chargé. Donc, elle a écrit son premier livre qui paraît à 21 ans, Les cahiers d'une hypocrite chez Albin Michel, qui va être suivi très rapidement du deuxième, Vie et mort du Beaufrou, 6 mois plus tard. Et ensuite, elle va aller vers La mort viennoise et La guerre des filles. Ça, c'est vraiment ses premiers livres. La mort viennoise va être un succès. Elle va recevoir de nombreux prix. Et c'est vrai qu'au départ, Christiane dit dit elle-même, autant elle avait le sens du sacré quand elle était petite qu'elle va le perdre. Elle va véritablement se tourner vers ce qu'elle appelle la religion de la raison. Elle va travailler une grande partie de sa vie sur les auteurs du XVIIIe siècle qui vont un petit peu éradiquer cet aspect du sacré, même si on peut dire que certains auteurs du XVIIIe siècle ont encore un rapport avec le sacré. Je ne veux pas contredire ça. Mais disons qu'elle va se couper de ça. Elle pense que la raison va sauver le monde. Et donc, elle devient une pure intellectuelle. Ce sont ses mots.
Christiane Singer était une grande amoureuse. Elle a énormément parlé de l'amour, l'amour dans le couple aussi. Elle va épouser le comte Georges von Thurn-Valsassina. Elle devient châtelaine de Rastenberg. Là aussi, on s'imagine une vie de château, presque une vie de conte de fées. Ça n'a pas été vraiment un conte de fées, en fait, son histoire.
Alors oui,
c'était
et non,
pas aussi simple que ça.
C'était pas aussi simple que ça. Il y avait bien évidemment tout ce que vous venez de dire, cette beauté, cette théâtralité. Christiane est arrivée au château. Bon, c'était un jeune couple avec un petit enfant. Ils ont essayé de remettre en état une partie du château pour y vivre correctement. Elle s'est quand même retrouvée loin du Marseille natal, une ville de lumière, de chaleur, de ensoleillée, la mer, pour finalement la forêt viennoise, le froid, la solitude, alors que c'est quelqu'un qui est très sociable. Petit à petit, bien évidemment, elle va s'y faire sa place, elle va faire de grandes fêtes. Donc elle a ce côté châtelaine, elle va investir le parc du château, jardiner, mettre des animaux, etc. Enfin, Christiane Singer, tout dans sa complexité et sa richesse. Et c'est vrai qu'en même temps, elle va vivre des grands moments qu'elle appelle elle-même de dépression. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver dans une très grande solitude, notamment aussi parce que sur les lieux vivent les parents de son mari, ses beaux-parents. Et elle ne s'entend pas avec son beau-père Philippe. Donc, ce qui va créer des conflits et ce qui va l'amener à une certaine solitude aussi au sein de sa famille. Mais disons qu'elle n'aimerait pas qu'on la réduise à ça. Voilà, donc je tiens à dire que ça faisait partie du paysage, mais ça ne la définit pas.
L'entretien de la semaine. RCF.
Audrey Fella, comment Christiane Singer va vraiment entrer dans une quête spirituelle qui va la marquer jusqu'à la fin de ses jours?
Comme je disais tout à l'heure.
En faire un peu la femme mystique qui vous intéresse tant dans vos quêtes.
Alors, elle dirait pas qu'elle est mystique, elle dirait qu'elle est une chercheuse ardente. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Christiane Singer est marquée par le sacré et très sensible à ça depuis son enfance. Elle va totalement s'en éloigner pour vivre d'autres choses et elle va y revenir à cause d'une profonde crise de couple avant 40 ans qui va l'interroger sur le sens de la vie. À ce moment-là, elle va rencontrer une femme en 1986, elle a 43 ans, qui s'appelle Hildegun Grobner et qui a reçu les enseignements de Karl Durkheim. Juste pour rappeler pour les auditeurs, cet enseignement mêle la mystique chrétienne, le bouddhisme zen et la psychologie des profondeurs de Jung. Et notamment la Leibthérapie, qui est une thérapie par les mains. On touche le corps, on essaie de dégager les souffrances du corps pour que finalement l'âme puisse émerger. Je le fais en très très court. Donc c'est à ce moment-là qu'elle va renouer avec cette dimension spirituelle, mystique bien évidemment, et qu'elle va véritablement investir, et ça va transformer sa vie.
Comment est-ce que vous définiriez la spiritualité de Christiane Singer, même si elle a évolué au cours de sa vie, et notamment vers les derniers mois de sa vie?
Bien sûr. Alors Christiane a beaucoup reçu des traditions, des religions, on l'a dit tout à l'heure, elle était marquée par le christianisme, le judaïsme, etc. C'est une grande amoureuse des religions. Il n'empêche qu'elle n'est pas du tout amoureuse des dogmes, ni de l'institution qu'elle considère plutôt dangereuse, source aussi de violence. Donc elle a préféré en garder toute la connaissance et la saveur et en mettant de côté finalement ce qui pouvait rigidifier cette connaissance vivante. La spiritualité de Christiane, c'est aussi une spiritualité qui est très ancrée dans le quotidien. C'est pas du tout une spiritualité qui serait tournée vers le ciel et on oublie la terre.
Plus incarné, quoi.
Voilà, c'est quelque chose qui est très incarné, très amoureux aussi de la vie et du monde. Christiane considérait qu'il fallait tout accepter, tout vivre dans la vie et qu'il ne fallait pas chipoter dans l'assiette, comme elle disait. Il fallait tout vivre. La maladie, les crises et à la fois l'amour, les enfants. Enfin, tout ça a été, résume sa vie, finalement.
Et comment comprendre qu'elle est devenue un peu un guide spirituel pour ses lecteurs et ses lectrices? Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a un peu gourouisée?
Alors, c'est une bonne question. C'est difficile d'y répondre parce que, bon, moi, j'ai observé en effet le phénomène en faisant mon livre et mon enquête. Je me suis bien aperçue que certains l'avaient un peu gourouisée. Christiane n'aimait pas du tout cette étiquette-là. Elle se méfiait des gens qui lui coller cette étiquette, qui pouvait la comparer au Dalai Lama ou à la nouvelle Durkheim, etc. Elle considérait qu'elle avait énormément de chemin à faire, qu'elle avait encore des choses à travailler, à approfondir. Et je pense que son dernier livre, dernier fragment d'un long voyage, le montre bien. Elle dit elle-même que voilà, au moment où elle apprend la maladie, où elle rentre dans la souffrance physique, la souffrance psychique, tout ça ne sert à rien et que finalement elle recommence quelque chose. Bon, on voit dans le livre que bien évidemment quelque chose a été travaillé et commencé à transformer, hein, bien évidemment.
Comment est-ce qu'elle va vivre ces 7 derniers mois de ce cancer foudroyant qui va la conduire à la mort ?
Alors, elle a vécu le terrifiant mystère de la maladie, donc ce qui vous ramène à une humilité difficile à décrire pour ceux qui n'ont pas connu ça, surtout une maladie qui vous entraîne jusqu'à votre décès, hein. Et à la fois de manière incandescente, c'est-à-dire que ça va générer chez elle une force de vie et d'un amour pour la splendeur et la célébration de la vie qui là est propre à elle et qui est hors du commun. On le retrouve, j'invite les auditeurs à acheter le dernier livre, à acheter tous ses livres et à les lire. Elle raconte, c'est le journal de ses derniers jours et ce n'est pas triste. Vous refermez le livre et vous êtes plein de vie et de gratitude pour ce qu'elle vient de vous donner, de ce qu'elle vient de vous faire lire. Donc voilà, il y a ce mélange, tout en ne niant pas la souffrance de la maladie, mais de ce qu'elle a pu parachever alchimiquement dans cette vie-là avant de partir, c'est-à-dire l'éclosion de son être, l'humanisation de sa personne.
Vous écrivez, pour terminer cette biographie sur Christiane Singer, Audrey Fella, « Vivre pleinement et aimer immodérément, telle aurait pu être la maxime de Christiane Singer, ça résume bien le cœur de sa pensée, vivre pleinement et aimer immodérément. »
Oui, oui. Toute cette transformation, accéder à son être, mène à une chose, c'est d'accéder à une nouvelle liberté. Comprendre qu'on n'est pas que sa personnalité, son nom, son prénom, mais aussi qu'il y a quelque chose de vivant en soi. Et bien évidemment, c'est aussi le pendant de ça, c'est d'aimer la vie, le monde. Si vous commencez à vous aimer, à être aimé par cette présence qui est en nous-mêmes, on peut commencer à se relier aux autres et à les aimer et à plus aimer la vie et à partager cela.
Merci beaucoup Audrey Fella. Je recommande vraiment sincèrement votre livre Christiane Singer, Une vie sur le fil de la merveille que vous venez de publier aux éditions Albin Michel. Une vraie rencontre avec cette femme lumineuse qui était Christiane Singer. Merci beaucoup.
Merci Thierry.